Europe Midi, Romain Desarbres.
Il est 12h30, bonjour à tous, bienvenue dans Europe Midi, votre grand rendez-vous d'information de la mi-journée sur Europe 1. On est aux côtés des familles qui se préparent à la grève des profs demain et on sera en direct avec un spécialiste de l'éducation, Jean-Paul Brighelli, qui estime que ce n'est pas vraiment le moment de faire grève, vous verrez pourquoi. Une personne en garde à vue depuis ce matin, 8h05 exactement, dans l'enquête sur la tuerie de Chevaline, l'un des plus mystérieux faits divers de ces dernières années. C'était en 2012. Nos informations dans un instant. Soyez là avec William Molinier. Les entreprises appliquent inégalement les consignes de télétravail. Pourquoi ? On verra ça avec Maud Descamps. On ira faire les soldes à Lyon avec Jean-Luc Boujon. Et puis la tendance météo, Anissa Haddadi, avec une nouvelle belle journée hivernale. Hein ?
Oui, c'est le soleil qui domine encore aujourd'hui sur une grande partie du pays, dans une ambiance bien fraîche. Dans le sud-ouest, la décrue est amorcée, mais prudence, hein, certains cours d'eau sont encore très hauts. Le Mistral et la Tramontane restent sensibles au bord de la Méditerranée.
Merci Anissa et à tout à l'heure pour la météo complète. Europe 1. On est à la veille d'une journée de grève qui sera très suivie dans les écoles. Les syndicats d'enseignants veulent que le ministre de l'Éducation revienne sur son protocole et demande qu'on ferme les classes à chaque cas de Covid. C'est ce que demandent les syndicats. Océane Théard, vous avez rencontré des parents d'élèves. C'est vrai que dans les familles, on parle que de ça en ce moment. Quand il y a des enfants scolarisés, c'est compliqué pour les familles. Comment s'organisent-elles ?
Eh bien, comme elles peuvent, certaines prévoient de mettre leur télétravail entre parenthèses. D'autres appellent en catastrophe les grands-parents pour venir garder les petits-enfants. Cette grève, elle vient compliquer encore un quotidien déjà bien chamboulé entre les classes fermées et les cas positifs.
Comme d'habitude, on va se débrouiller. Le télétravail se transforme en garde d'enfants. Et j'ai des parents formidables qui nous aident aussi.
Les parents, c'est vraiment la galère. Genre, pour nous, quand on a appris ça hier, on se dit avec mon mari, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Parce que là déjà, la rentrée était hyper difficile à gérer avec la Covid. Plus après, maintenant la grève, c'est jeudi. Pour moi, c'est un peu la goutte en trop.
Pourtant, tous les parents que j'ai croisés l'affirment. Ils sont, malgré tout, d'accord avec les enseignants grévistes. Entre le protocole sanitaire qui change d'un jour à l'autre, les enfants attestés tous les deux jours, la situation devient impossible à gérer, explique par exemple Alice, mère de 3 enfants.
Je comprends leurs revendications parce que moi-même, je suis impactée dans le sens où j'ai passé toute la semaine dernière à faire des autotests ou des tests en pharmacie, des vérifications d'autotests qui s'étaient avérés positifs et qui finalement s'avéraient négatifs à la pharmacie. Moi, mes filles, elles pleurent à chaque fois que je leur fais l'autotest ou que je les vois faire leur test à la pharmacie. Voilà, je ne sais pas si c'est bon pour la santé, ça non plus, de les enquiquiner avec ça.
En revanche, la plupart des parents que j'ai rencontrés ne suivront pas l'appel de la FCPE, syndicat des parents d'élèves, et iront bien déposer leurs enfants demain à l'école si leur enseignante est présente.
Merci beaucoup, Océane Théard. Dans un instant, on sera avec Jean-Paul Brighelli, professeur agrégé de lettres. On va parler de cette grève. Mais on passe tout d'abord par l'Élysée, Conseil des ministres. Ce matin, à l'Élysée, on retrouve Jacques Serret. Jacques, cette mobilisation, elle est surveillée comme le lait sur le feu par le gouvernement, parce qu'à 3 mois de la présidentielle, ça peut clairement devenir un gros problème pour Emmanuel Macron.
Oui, en ce jour de Conseil des ministres au Palais, c'est le sujet qui fait frémir certains conseillers. La Macronie est loin d'ignorer le potentiel ultra-inflammable de ce mouvement de grève, un vent de fronde qui est pris très au sérieux, car Emmanuel Macron a précisément fait du maintien des écoles ouvertes sa stratégie, la singularité de la France face à Omicron au regard des autres pays européens. Un atout revendiqué, une carte maîtresse dans cette campagne qui risque de se transformer en caillou dans la chaussure présidentielle. Emmanuel Macron lui-même, la semaine dernière, admettait la mauvaise gestion de son ministre de l'Éducation devant une enseignante. « Je vous donne le point, il faut plus d'anticipation », concédait-il, un bras agacé par la publication du protocole par voie de presse la veille de la rentrée. Une semaine plus tard, les protocoles n'ont cessé d'évoluer et c'est Jean Castex qui monte au créneau pour tenter de circonscrire ce début d'incendie. En coulisses, le message du chef de l'État est temporisé. Il faut tenir 15 jours, explique Emmanuel Macron. Dans 15 jours, on lève une grande partie des restrictions. Lui, qui jusqu'à présent bénéficiait d'une relative bonne image quant à la gestion de la crise sanitaire, n'a aucune envie de perdre des points dans cette dernière ligne droite.
Jacques Serret en direct de l'Élysée. Merci Jacques. Jean-Paul Brighelli avec nous. Bonjour Jean-Paul. Paul Brighelli.
Bonjour.
Vous êtes professeur agrégé de lettres, enseignant, essayiste français, spécialiste des questions d'éducation et auteur notamment de La fabrique du crétin aux éditions de l'Archipel. Alors déjà, quelle est votre opinion sur le mouvement de grève de demain ? Qu'est-ce que vous en dites ?
Je me dis que si j'étais le Covid, je serais absolument terrorisé par une grève des enseignants. Je cesserais d'exercer immédiatement. Non, allez, on va être sérieux. Ouais. J'ai aucune action au rue de Grenelle. Hein. Mais le ministre a raison en disant qu'on ne fait pas grève contre un virus. Il va falloir être clair, là. Ça fait 2 ans que les enfants sont bousillés par une politique de restriction scolaire absolument effarante et qui n'a jamais, alors je vais être clair là-dessus, oui, qui n'a jamais été le fait du ministre de l'Éducation qui vient des instances médicales qui ont pris le pouvoir dans ce pays. Alors qu'on fasse grève contre Olivier Véran, contre le professeur Delfrécy, ça je le comprendrais tout à fait. Qu'on fasse grève contre les restrictions absolument invraisemblables que l'on impose aux élèves qui ne demandent qu'à suivre des cours et qui en plus ne risquent rien. Ouais. Ne risquent rien. Hein, on le sait, toutes les études le prouvent. Les enfants n'éprouvent même pas de troubles quelconques vis-à-vis de Omicron et d'ailleurs des autres. Bon, les profs ne risquent pas grand-chose. Je vous le dis, depuis le début de l'épidémie, il n'y a pas un seul qui est mort du Covid.
Donc pour vous, on laisse les classes ouvertes et les enfants malades ne vont pas travailler comme ça a toujours existé, c'est ça?
Voilà, s'ils sont malades.
S'ils sont malades. Oui.
Je vous rappelle qu'on passe notre temps à tester des gens qui n'ont aucun symptôme. Oui. Alors forcément, on trouve des gens positifs parce que les testeurs, qui d'ailleurs sont largement faux, hein, souvent, sont assez sensibles. Mais à quoi ça rime? Imaginez qu'on vous teste pour le Covid, le rhume, la grippe, ou je ne sais trop quoi. Combien nous sommes à être allés en classe en étant quelque peu malade, en ayant un gros rhume,
en ayant chouiné quand
on était petit, etc. Mais on va en classe parce que c'est essentiel.
C'est une grève qui est très politique, selon vous?
Oui, c'est une grève très politique. On essaie de faire payer à Blanquer d'un côté, une politique sanitaire catastrophique, et de notre côté, un certain nombre de décisions du ministère. Je vous prends un exemple, le seul, puisque ça portera surtout sur les écoles, cette grève. Le ministère a expérimenté sur Paris et un peu la région parisienne une nouvelle méthode de lecture alphasyllabique, le BABA, c'est-à-dire la logique même, la logique raisonnable.
Oui.
Et le principal syndicat d'instituteurs, le SNUIVP, a dit que c'était du caporalisme, qu'on voulait leur imposer des méthodes, alors qu'ils continuent à utiliser des méthodes qui rendent les élèves aussi sots que possible et qu'ils fassent grève. Mais j'espère bien qu'aucun parent ne se pliera à des injonctions aussi absurdes.
Merci beaucoup Jean-Paul Brighelli. Jean-Paul Brighelli qui était en direct avec nous dans Europe Midi. Merci de nous avoir donné votre avis sur ce mouvement de grève de demain. Il est midi 38.
Europe Midi. Midi 30, 13h, Romain Desarbres.
On se souvient tous de la tuerie de Chevaline. 4 morts, dont 3 d'une même famille, sur un parking en pleine forêt, en Haute-Savoie. C'était en septembre 2012. Un homme, depuis ce matin, est en garde à vue chez les gendarmes. L'enquête est-elle relancée? William Molinier, avec nous du service police-justice d'Europe 1, évidemment. Que sait-on, William, exactement?
Alors cet homme est interrogé par les gendarmes de la section de recherche de Chambéry depuis 8h ce matin. Ce nouvel acte d'enquête a été fait à la demande du juge d'instruction d'Annecy en charge de ce dossier. Il s'agit essentiellement, selon nos informations, de vérifier son emploi du temps. Une perquisition est aussi en cours à son domicile. Rien n'a fuité à ce stade sur son profil, mais on sait qu'en septembre dernier, une opération de reconstitution dans le secteur de Chevaline avait été ordonnée, ce qu'on appelle dans le jargon policier du timing, c'est-à-dire par exemple mesurer le temps de transport d'un point A à un point B. Plusieurs juges d'instruction se sont succédés. Une nouvelle procureure de la République est arrivée à Annecy en septembre dernier, ce qui très certainement a facilité la relecture du dossier. Et cette garde à vue s'inscrit donc dans ce souci de vérification. Les enquêteurs tentent de voir s'ils ne sont pas passés à côté d'un élément qui pourrait les mettre sur la piste du tueur. Depuis le début de l'affaire, de nombreuses pistes ont été étudiées, plus ou moins farfelues: assassinat sur contrat, meurtrier itinérant, tueur local ou encore règlement de compte entre services de renseignement. Mais rien, jusqu'à présent, n'a abouti.
William Molinier, merci William. 12h39, restez bien avec nous. Dans un instant, on va aller faire les soldes à Lyon. On va retrouver Jean-Luc Bougeon. À tout de suite.
Europe Midi,
Romain Desarbres.
12h42. Est-ce que vous avez prévu de faire les soldes? Ça a démarré ce matin. Les commerçants, eux, sont prêts, mais c'est compliqué, évidemment. En ce moment, Jean-Luc Boujon est à Lyon. Il est rue de la République. C'est une rue très commerçante de Lyon. Jean-Luc, il n'y a pas foule dans les magasins. Hein.
Effectivement, hein, Romain, c'est très étonnant de voir cette grande artère commerçante du centre de Lyon quasi déserte ce matin. Pas de queue devant les magasins, alors que c'est généralement le cas devant les portes des grandes enseignes de prêt-à-porter, style Zara ou H&M. Et c'est la même chose dans les boutiques plus haut de gamme comme Maje, magasin de vêtements pour femmes.
Premier passage, 11h20, donc très calme.
Les gens ont ça dans la tête quand le Covid.
Je pense, et surtout, il y a une tente à côté de test ou quoi que ce soit. On vient un peu avec ça matraqué, donc c'est sûr que s'il y a 300 000 cas par jour, plus télétravail, il y a moins de monde dans les boutiques, quoi.
Et le même constat est fait par les clientes comme Françoise qui malgré tout a décidé de se faire plaisir, ce qui est vital selon elle en ce moment.
Il n'y a personne ce matin, c'est vrai que les stocks sont pleins, il n'y a personne. Je sors du printemps là, j'étais quasiment toute seule dans le magasin, c'est très agréable. Ça a l'air très intéressant cette année. Au niveau des prix, c'est bien et on a besoin de se détendre.
C'est thérapeutique.
Oui, oui, ça fait du bien, ça ouais. Fait du bien. Parce que c'est vrai qu'en ce moment, on est plutôt dans une période anxiogène.
D'autres comme Sonia, qui se définit elle-même comme une fashion victime, n'ont pas hésité une seconde à venir faire les soldes dès les premières heures ce matin.
Moi, j'ai pas peur. Je suis une acheteuse compulsive, le Covid m'arrête pas, en aucun cas.
Donc il y a quoi alors dans les sacs?
Il y a un peu tout, des robes, des jeans, des mitaines, des vestes, il y a un peu de tout.
Des cas qui restent quand même des exceptions aujourd'hui, c'est pourquoi on s'attend à un boom des ventes en solde, mais sur internet cette fois.
Jean-Luc Boujon à Lyon, rue de la République à Lyon. Merci Jean-Luc. 12h44, on va parler de politique et de la campagne présidentielle évidemment. Faut-il changer les règles des parrainages pour la présidentielle? Non! Pas à 3 mois de l'élection, a dit ce matin Gérald Darmanin sur CNews. À ce jour, ni Éric Zemmour, ni Marine Le Pen, ni Jean-Luc Mélenchon n'ont leurs 500 signatures. En tout cas, c'est ce qu'ils disent. Victor Chabert, vous avez enquêté auprès de ceux qui partent à la chasse aux signatures pour ces candidats et les autres, mais notamment pour ces candidats. Pourquoi est-ce que c'est si difficile, Victor ?
Eh bien Romain, car il faut savoir que sur les 42 000 élus habilités à donner leur parrainage, environ 14 000 seulement l'ont fait en 2017. La première raison évoquée, c'est que leur nom est rendu public depuis la dernière présidentielle et ils ont peur de subir des pressions de leurs adversaires, notamment perdre des financements d'autres collectivités qui ne seraient pas de la même couleur du candidat auquel ils apportent leur parrainage. Une manœuvre dénoncée par le maire de Béziers, Robert Ménard.
Aujourd'hui, le chantage aux subventions de la part des départements et des régions est un chantage d'une efficacité redoutable. On l'a tous vécu et quand j'entends un certain nombre d'élus dire « Mais non, c'est pas vrai, le maire d'une petite commune, il fait ce qu'il veut », ce n'est pas vrai.
Autre difficulté, les maires sont nombreux dans les petites communes à être sans étiquette et à vouloir le rester. Un constat fait par Guilhem Serriès, le responsable des parrainages de Jean-Luc Mélenchon.
Le phénomène massif, c'est notamment chez les nouveaux maires, je reprends leurs mots, notre conseil municipal il est pluriel politiquement, ou alors notre conseil municipal il est apolitique. Donc on refuse de prendre position dans le débat pour la présidentielle.
Se pose aussi la question du profil des collecteurs de signatures. Dans les grands partis, ce sont souvent des cadres politiques expérimentés avec de gros réseaux. Mais chez Éric Zemmour, par exemple, ce n'est pas le cas. Ils ne sont pas connus et n'ont pas le carnet d'adresses. Les portes des mairies restent souvent closes.
Merci beaucoup Victor. Merci Michel Fournier d'être en direct avec nous dans Europe Midi. Bonjour.
Vous êtes... Oui, bonjour.
Bonjour, vous êtes président de l'association des maires ruraux de France, maire des Voivres dans les Vosges. Vous avez écouté Victor Chabert à l'instant, c'est compliqué pour les candidats et certainement aussi pour les maires, vous allez nous raconter ça. Déjà, vous allez donner votre signature à un des candidats, vous ?
Ah, personnellement, non. Personnellement, c'est la première fois que je ne donnerai pas de signature.
Ah oui.
Mais moi, j'ai une raison particulière. Ouais. Je suis président de l'Association des maires ruraux de France et je ne veux pas que, en tant que publication de ma signature, on puisse assimiler notre association à un parti ou un autre. Alors ça, c'est clair.
Ah oui, vous avez une difficulté supplémentaire, effectivement. Mais comment ça se passe ?
C'est la première fois, d'ailleurs. Ouais. C'est la première fois que je ne donnerai pas.
C'est plus difficile cette année ? La pression est plus forte ? Comment vous sentez les choses ? Qu'est-ce que vous remontent les adhérents à votre association, les maires ruraux ?
Bon, il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a à peu près une cinquantaine de candidats qui sont en lice. Une cinquantaine, hein. Ça veut dire que effectivement il y aura un écrémage naturel, mais tout le monde souhaite que la présidentielle soit le, et c'est ça qui est dommage, c'est qu'il semblerait qu'il n'y a que lors de l'élection présidentielle qu'on puisse avoir un débat politique et un débat démocratique. Ça, c'est la première chose. Mmh. Et la deuxième, c'est que, effectivement, ce qui a été dit tout à l'heure, je partage, on peut être assimilé dans le fait, alors que ce n'est pas cela. Le parrainage, c'est de permettre à ce que l'expression puisse se faire. Par contre, on peut être assimilé au simple fait, puisqu'on a donné ce parrainage, on est forcément de cette sensibilité-là. Et ça passe mal vis-à-vis des conseils municipaux, ça passe mal vis-à-vis de la population, mmh.
et là, on peut...
d'autres entités.
Oui, et là, on peut vous couper votre subvention et ça peut être, peut-être pas l'enfer, mais en tout cas un chemin de croix. Vous voulez le retour à l'anonymat, qu'est-ce que vous proposeriez? On parle également de la double signature. Un maire pourrait donner sa signature à deux candidats.
C'est une piste. Mmh. L'anonymat n'a jamais existé en tant que tel. Il faut savoir qu'avant, il y avait, quand on est passé aux 500 signatures, il y avait une publication des 500 signatures retenues par le Conseil constitutionnel dans le cadre de ceux qui en avaient 700, 800, ou etc.
Donc, qu'est-ce que vous défendriez comme solution?
Nous, personnellement, au niveau du bureau, on a dit qu'on est pour la non-publication, quel que soit
l'anonymat.
L'anonymat le plus total, ce qui permettra effectivement à chacun de vouloir s'expliquer s'il le souhaite au niveau de son conseil. Mais ce que je voudrais aussi dire, ce qui est quand même étonnant, c'est qu'on parcourt la France à l'heure actuelle pour rechercher les parrainages. Moi, je souhaiterais que l'on parcourt la France et les territoires ruraux pour effectivement s'y intéresser et que le débat politique puisse aussi concerner ces territoires où vivent 30% de la population.
C'est vrai qu'on ne parle pas assez des campagnes. On n'en parle pas assez. Voilà. On parle beaucoup des banlieues. On ne parle pas assez des campagnes. Mais on va en parler. Vous êtes en direct là et puis on va continuer à en parler
Je souhaite que ça fasse partie du débat présidentiel. 30% de la population, n'oublions jamais cela. 30% de la population vit dans nos territoires
bien
ruraux.
Bien sûr, bien sûr. Merci beaucoup Michel Fournier. Merci d'avoir été en direct avec nous, président de l'association des maires ruraux de France. 12h49. Qui pour devenir patron d'Orange pour remplacer Stéphane Richard? 3 candidats ont été auditionnés. Et ce matin, écoutez bien, Bercy fait savoir que le ministre de l'économie Bruno Le Maire donne sa préférence à compétence égale à la nomination d'une femme. Mais est-ce que c'est légal de dire qu'on préfère une femme plutôt qu'un homme? Carole Ferry a posé la question à une avocate spécialiste en droit social, Émilie Méridgen.
C'est une question qui n'est pas simple. On est tous sensibles aux questions de discrimination positive et au niveau légal, il y a des principes de mixité qui sont favorisés dans les instances dirigeantes des entreprises et en particulier des sociétés cotées, donc ça pourrait sembler aller dans l'air du temps. Pour autant, là, on ne parle pas d'un conseil d'administration, on parle de recruter un dirigeant. Il n'y a pas de texte, à ma connaissance, qui permette de discriminer positivement une femme. Et je rappelle qu'au plan pénal, toute discrimination opérée entre deux personnes sur le fondement de son sexe est répréhensible. Donc favoriser une femme, ça voudrait dire potentiellement pénaliser un homme qui pourrait avoir à redire contre ce choix.
Voilà ce que disait donc cette avocate interrogée par Carole Ferry. 12h50, restez bien avec nous sur Europe 1 dans Europe Midi. On va parler du télétravail. Les entreprises rechignent, pour certaines évidemment, à appliquer les consignes de télétravail. À tout de suite.
Europe Midi. Romain Desarbres.
12h53, vous êtes peut-être concerné, vous aimeriez faire 3 ou 4 jours de télétravail par semaine, comme cela a été recommandé par le ministère du Travail. Et pourtant, votre employeur vous demande de venir au bureau. Depuis début janvier, le recours au télétravail n'a pas vraiment progressé, alors que la recommandation en a été faite aux entreprises. Maud Descamps, expliquez-nous, qu'est-ce qui coince ?
Eh bien, ce phénomène traduit une certaine lassitude, à la fois du côté des employeurs, mais aussi des salariés, face aux contraintes imposées par le protocole sanitaire en entreprise. Celui-ci prévoit au minimum 3 jours de télétravail par semaine pour les 3 premières semaines de janvier. Pourtant, lorsque l'on regarde les chiffres, on en est loin. Selon un sondage Harris Interactif, au cours de la première semaine de janvier, la part de télétravailleurs est restée relativement stable par rapport à la mi-décembre. Or, cette part aurait dû augmenter. Les entreprises appliquent donc le protocole à minima. Des résultats qui ont été jugés pas à la hauteur de la situation sanitaire par le ministère du Travail. Le ministère qui, au vu de ces chiffres, estime que les amendes prévues par le projet de loi sur le pass vaccinal actuellement examiné à l'Assemblée sont justifiées, jusqu'à 1 000 euros par salarié en cas de non-respect des consignes sanitaires.
Maud Descamps, merci Maud. Nouvel épisode dans le feuilleton Djokovic. En Australie, Novak Djokovic a concédé dans un communiqué publié ce matin deux erreurs humaines, et notamment avoir déclaré à tort à son arrivée en Australie qu'il n'avait pas voyagé lors des 14 jours précédant son vol. Est-ce une erreur de Novak Djokovic ou un mensonge? Telle est la question. Jean-François Pérez, bonjour Jean-François.
Bonjour Romain, bonjour à tous.
Ce qui est certain, c'est que Djokovic risque gros, c'est peut-être la fin de sa carrière.
Alors on va en parler, mais en effet sur deux tableaux, il risque gros. D'abord vis-à-vis des autorités australiennes, vous l'avez dit, une erreur. Il a omis de signaler à son arrivée un séjour en Espagne en fin d'année. Pour se dédouaner, si l'on peut dire, Djokovic affirme qu'il n'a pas rempli lui-même le formulaire. Le problème, c'est que chaque individu est responsable de ses déclarations et à ce titre, il risque 3 ans d'interdiction d'entrée sur le territoire australien. Le ministre de l'Immigration peut à tout moment demander l'expulsion du joueur. Deuxième conséquence, sportive celle-là, encore plus grave. Il existe de gros doutes sur la véracité du test positif au Covid fourni par le Serbe, doutes sur la date, mais aussi sur le résultat. Or, c'est grâce à ce test que Djokovic avait reçu l'exemption de vaccination et l'autorisation de s'aligner à Melbourne. Une enquête est en cours. Si elle conclut à une tromperie ou à un mensonge, le numéro 1 mondial pourrait être banni du circuit pendant 3 ans. Et là, vous me voyez venir.
Oui, il a 34 ans.
35 ans cette année.
35 ans
dans
cette
le pire
année,
des cas pour Djokovic, ouais. Cela pourrait sonner la fin de sa carrière et donc de son rêve de dépasser Federer et Nadal dans l'histoire du tennis. Ça serait évidemment le rebondissement ultime d'une affaire incroyable qui n'a aucun équivalent dans l'histoire du sport.
Donc tout est encore possible
tout à l'heure qu'il est. Possible.
Il pourrait être expulsé par les autorités australiennes. On va suivre ça évidemment. Merci beaucoup Jean-François. 12h56, le temps, la météo avec vous Anissa Haddadi. Le beau temps se poursuit.
Oui, cet après-midi, c'est le soleil encore qui domine et qui brille sur les trois quarts du pays. Quelques nuages bas et grisailles matinales s'accrochent encore localement du côté du Val de Saône ou encore en Alsace. Mais dans l'ensemble, le temps est très lumineux. C'est une nouvelle fois aujourd'hui dans le nord que le ciel va rester gris. De la Bretagne jusqu'aux Hauts-de-France, en passant par le Cotentin et la Normandie, nous avons des nuages cet après-midi. Dans le sud, Mistral et Tramontane restent sensibles avec des rafales jusqu'à 70 km/h. Alors même si le soleil brille, l'atmosphère reste bien fraîche avec des températures tout juste de saison, surtout dans le nord et l'est du pays, avec 1 degré à Saint-Étienne cet après-midi, 3 à Grenoble et Clermont-Ferrand, 4 pour Lyon, 6 degrés à Paris et Limoges, 8 à La Rochelle, Nîmes et Bordeaux, 12 degrés pour Bastia, Brest et Quimper, 13 à Marseille et Ajaccio et 14 degrés pour Nice.
Merci Anissa, 12h57, restez bien avec nous sur Europe 1 dans un instant. C'est La France Bouge, nous on se retrouve demain pour un nouvel Europe Midi. Très bon après-midi sur Europe 1. Thank you.